La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Et ce soir encore, nous allons nous retrouver pour célébrer celui qui est le champion des champions, celui qui est le vainqueur des vainqueurs, toi le seul, l'unique vrai Dieu. Pendant tous ces mardis, Seigneur, tu nous as parlé de dimension en dimension. Père éternel, de victoire en victoire, sois élevé, sois magnifié. Éternel, une fois de plus, nous voulons partager cette parole-là que tu as mise sur mon cœur en ce jour. Inspire-moi afin que je la communique selon toi, Saint-Esprit. Oh Dieu, éternel, car je ne sais pas parler, souvent je ne comprends même pas personnellement, même souvent certaines choses que tu me montres. Mais je sais, Seigneur, que tu es fidèle, car c'est ta parole, c'est toi qui enseignes, c'est toi qui parles. Et je veux dire ces choses, Seigneur, avec un langage spirituel, car c'est ce qui vient de l'Esprit qui produit la vie. Éternel, ce n'est pas une affaire de cohérence et de logique, mais c'est ce qui vient de toi qui produit la vie, qui change les cœurs, qui transforme les mentalités. Amène-nous, Seigneur Dieu, à marcher dans cette dimension spirituelle. À toi la gloire, l'élévation, c'est des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec moi la prière. La prière. En tout cas, l'Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous quelque chose sur la prière. Et ce dont je vais parler avec vous ce soir, vraiment traduit mon expérience personnelle en ce qui concerne la prière. Alors vraiment que Dieu puisse disposer nos cœurs à avoir soif de lui. Je veux donc parler de la prière efficace, de la prière qui marche. Parce que il y a des prières qui ne sont pas efficaces. Tout le monde prie. Même les païens même prient. Si nous définissons simplement la prière comme le fait de s'adresser à Dieu, même lorsque vous ne connaissez pas le Seigneur, il y a des prières que vous avez fait monter à Dieu. Dans des situations difficiles, quand tout va bien, juste un petit remerciement, on prie. On prie. Et malheureusement, toutes les prières ne sont pas exaucées. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous l'obtiendrez. Et je suis convaincu que parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas souvent exaucées. Qui n'est pas souvent exaucé lorsqu'il prie. Est-ce que ça t'arrive de ne pas être exaucé quand tu pries? Si tu n'es pas exaucé, lève la main, je vais voir. Bon. Qui est exaucé, connaît des exaucements, on peut dire 50%. Si tu es prié, tu as au moins 50% d'exaucement. Ok. 25% d'exaucement. C'est-à-dire, sur 100 prières, il y a 25 seulement qui sont exaucés. Ou si tu veux, sur 10 prières, 2,5. Qui connaît du 80% d'exaucement? 75 à 80%. Amen. C'est très bien. Alléluia. On va apprendre à persévérer dans ces choses-là. Maintenant, parmi nous, quels sont ceux qui arrivent à maintenir une bonne vie de prière? C'est-à-dire à prier régulièrement. Un peu comme Daniel. La Bible dit que Daniel, il avait 3 moments de prière par jour. Et il était ferme là-dessus. Quels sont ceux qui arrivent à tenir ferme en ce qui concerne leur temps de prière? Levez les mains. Ok. Qui flash à ce niveau? Ça veut dire tu décides de prier 3-4 fois par jour. Tu respectes ça 1 mois, 2 mois, 4 mois, et puis après, paf. Qui vit cette situation? Alléluia. En tout cas, moi je l'ai connu, je l'ai vécu, expérimenté. Je peux même, j'ai été même agrégé d'en prendre des décisions pour prier et ne pas arriver à le faire. J'ai tout expérimenté à ce niveau. Alléluia. Alléluia. Alors, la série d'enseignements que nous allons avoir pour être champion dans la prière. On va étudier des choses pour apprendre à être champion dans la prière. Amen. Lorsque je dis champion dans la prière, je parle de celui qui prie et qui est exaucé, celui dont la prière est efficace. Amen. Lorsqu'il demande les choses à Dieu, il la voit, il sait comment prier, il prie de manière efficace et qui arrive à maintenir une vie constante de prière. Alléluia. Pour parler de la fermeté dans la vie constante de prière, permettez de raconter juste cette petite expérience-là. Au début de ma conversion, je l'ai souvent dit ici, je priais peut-être légèrement, mais au fur et à mesure que j'avançais,
J'ai commencé à beaucoup prier. Je passais beaucoup de temps dans la prière. Au départ, j'avais d'abord une heure par jour. Après, moi, je suis monté à deux heures par jour. Après un temps, j'avais lu certains livres de prière. Et je suis même arrivé à prier 5 heures de temps par jour. Là, je devais être en classe de troisième, en classe de seconde. Et l'année qui a suivi, j'ai dit, en toute chose, il faut croître. Je suis même passé environ à 8 heures. J'étais élève. Mais j'arrivais à prier près de 8 heures par jour. Le matin, avant d'aller à l'école, je me lève de 4 heures, je prie jusqu'à 6 heures, 2 heures. Entre midi et 2, je prie 2 heures. Mon ami Jonas, qui est là, se souvient très bien de cette période lorsqu'on était à Gagnoua. Je prie 2 heures. Et tous les soirs, on avait des réunions de prière à l'église. On avait des séances de prière. Je partais au temple 2 heures avant le culte du soir. Donc, je descendais vers 17 heures, j'arrive, je prie 2 heures avant que le culte ne démarre. Notre culte durait à peu près aussi 2 heures. Et puis, quand je rentre à la maison encore, je prie 2 heures avant d'étudier. J'ai prié, frère. Quand ma vie de prière atteint 5 heures de prière par jour, quand je te faisais 5, en seconde, je priais 5 heures de temps. 5 heures de temps, 2 heures le matin, de 4 heures à 6 heures, 1 heure entre midi et 2 et 2 heures le soir. 5 heures. Vraiment, Dieu s'est glorifié. J'ai eu une année scolaire extraordinaire. Je suis passé brillamment en classe de terminale C. J'étais un bon scientifique. Je me suis dit dans mon esprit que sûrement parce que je prie beaucoup, je suis davantage béni. C'est pourquoi j'ai augmenté, je suis passé de 5 heures à 8 heures ou 10 heures de prière. Cette année-là, malheureusement pour moi, j'ai failli être renvoyé de la classe et je suis passé de justesse en classe de terminale C. Arrivé en classe de terminale, je dis, bon, peut-être que j'avais trop exagéré dans mes temps de prière. J'ai réduit mes heures de prière à 5 heures. Je suis revenu à la prière de seconde. Malgré cela, on a failli me renvoyer de l'école. Non, je n'ai pas eu le bac la première année. En tout cas, plein de problèmes. Et je conservais plus ou moins cette vie de prière. Je me souviens la première fois comment je suis arrivé à prier 3 heures de temps. J'avais décidé de prier 3 heures de temps. J'ai aligné un certain nombre de sujets de prière sur une feuille. Je les ai couchés, j'ai écrit. Et j'ai marqué devant chaque sujet de prière. Ce sujet-là, j'ai pris 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Et j'ai fait l'addition, ça fait 3 heures. C'est comme ça que je m'exerçais. Et quand j'ai fini, j'ai enchaîné ces horaires, ces temps de prière-là. J'ai fait la première fois, 3 heures non-stop de prière. J'ai crié Alléluia, gloire à Dieu. Mais pendant cette période-là, c'est vrai, l'Esprit de Dieu me parlait beaucoup. Je passais beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de temps dans le jeûne. Et quand je suis arrivé dans la période du bac, la deuxième année, quand j'ai eu mon examen, j'ai eu le bac, je rentre en mon cycle supérieur. Il va se venir dans ma vie certains événements. C'est la période où ma fiancée, qui est devenue mon épouse aujourd'hui, a dit que c'était fini entre nous. On avait commencé à cheminer ensemble, bien dans l'amour de Dieu. Mais j'étais un homme tellement bizarre. Ça, je vous ai raconté ça, déjà. Moi, tout était l'évangélisation. Donc, ma fiancée était pour moi un collègue de l'œuvre. Chaque fois que je la vois, allons évangéliser. Je finis d'évangéliser, toi aussi prêche. C'est comme ça que j'ai fonctionné. Aucune parole d'affection. Bref, elle n'a pas pu supporter, parce que moi aussi je ne comprenais rien du tout. Et elle m'a dit que c'était bon, on s'est séparés. Je crois que ça va me donner un choc émotionnel. Et puis d'autres événements vont se produire dans ma vie. Mais je vais voir ma vie de prière commencer à chuter vraiment de manière drastique. À un moment donné, je n'arrivais même plus à jeûner. Moi qui arrivais à faire 40 jours de jeûne chaque année. Quand je ne fais pas mes 40 jours de jeûne, chaque semaine, je jeûnais au moins 4 jours dans la semaine. Et je suis arrivé à un moment donné, je n'arrivais même pas à jeûner jusqu'à 13 heures. Prier, c'était compliqué. Lorsque j'entrais dans la prière, mes prières étaient distraites, aucune concentration. Tout mon fardeau pour prier avait disparu. Je n'arrivais plus à prier. Je n'arrivais plus à chercher la face de Dieu comme je le faisais auparavant. Et j'étais là, je criais au secours. Je dis, Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? À qui s'est déjà arrivé cette situation comme la mienne? Vraiment. Les 7 leçons pour une vie de prière efficace vont te rendre champion dans la prière. Alléluia. et vont te permettre de résoudre ces genres de situations. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, je veux parler sur la base de ce que dit la parole de Dieu, parce que Dieu m'a donné la réponse plus tard, et c'est ce que je vais partager avec vous pour nous apprendre à prier. Amen. Pourquoi ma vie de prière avait baissé? C'était effondré ma vie de jeûne. Ma vie de jeûne et ma vie de prière se sont effondrées. Et je vais dire, c'est la même chose pour toi. Parce que ma vie de prière, parce que ta vie de prière n'a pas un bon fondement. La Bible dit ceci, que tout ce qui est bâti sur la parole de Dieu est inébranlable. Il dit, si quelqu'un entend la parole de Dieu et il la met en pratique, il est semblable à une personne qui a bâti une maison sur du roc. Le roc dont il est question, c'est la parole de Dieu. Il dit, il est semblable à une personne qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie et le vent, les torrents ont frappé cette maison et cette maison est restée ferme. Elle n'est pas tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était tout simplement bâtie et fondée sur du solide. Alléluia. Jésus dit encore ceci lorsqu'il parlait avec Pierre. Il dit ceci à Pierre. Il dit, Pierre. Pierre venait de dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je vous expliquais brièvement la dernière fois. Et Jésus a dit, Pierre, ce que tu viens de dire, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et il a dit, sur ce roc, de quel rocher parlait-il? De la déclaration inspirée par l'Esprit. Retenez bien ce passage, parce qu'on va revenir là-dessus. Il dit, de la déclaration inspirée par l'Esprit que Pierre venait de prononcer. Il dit, sur ce rocher, sur la révélation que tu viens de donner, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est quoi les portes du séjour des morts? Les portes du séjour des morts, c'est tous les assauts de l'ennemi contre les choses que Dieu bâtit dans ta vie. Autrement dit, Jésus est en train de dire à Pierre que tout ce qui est bâti sur le roc est inébranlable. Une vie de prière qui s'affaisse, ça veut dire qu'elle n'était pas basée sur un bon fondement. Une vie de jeûne qui disparaît avec le temps, ça veut dire que la fondation de ta vie de jeûne et prière n'était pas la bonne. Parce qu'il dit ceci, il dit, si quelqu'un entend la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à une personne qui a bâti une maison. Amen. Dans les deux cas, il y a une maison qui est bâtie. C'est quoi la maison? Qu'est-ce que c'est que la maison dans ce cas? La maison, vous savez, c'est quand il dit bâti sur le roc c'est quoi? C'est la fondation de la maison. Et vous savez que la fondation d'une maison est une chose qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Nous sommes dans un bâtiment en ce moment de l'hôtel communal, dans la salle des mariages de l'hôtel communal. Et il y a une fondation, mais personne ne la voit. Et cette partie-là invisible détermine pourtant la solidité du bâtiment. Alléluia. Si la fondation n'est pas bonne, on ne sait pas, on ne peut pas le savoir pour le moment. Qu'elle soit bonne ou qu'elle ne soit pas bonne. La seule façon dont nous pourrons savoir, par laquelle nous pourrons savoir que la fondation est bonne, c'est la façon dont cette maison, cette bâtisse, va résister aux intempéries. Si un vent souffle et qu'elle s'effondre, alors on dira que les architectes, les maçons, les ingénieurs qui ont travaillé là-dessus ont mal travaillé. Mais la fondation est une chose qu'on ne voit pas. Quand Jésus parle du roc, que Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, il parle d'une chose, il parle d'un fondement qui n'est pas visible à l'œil nu. Alléluia. Tout ce qu'on voit de manière visible n'est pas le fondement. Quand on parle de l'hôtel communal, on parle de ce bâtiment-là que nous voyons. Dieu dit ceci. Tu peux avoir une belle maison, lorsqu'on voit de l'extérieur, elle est belle à voir. Mais si elle n'a pas de fondement, lorsque les problèmes viendront, cette maison va s'effondrer. Moi, quand tu regardais ma vie de prière, elle était belle à voir. C'est une belle maison. On m'appelait pasteur, grand évangéliste. Les gens m'appelaient pasteur, évangéliste. Parce que l'évangéliste, c'était fonction de ce qu'on voyait. Qu'est-ce qu'on voit? Quand tu te mets à jeûner, que tu passes 3 heures dans la prière, ça c'est du visible. Amen. C'est du visible. Donc ça fait partie de la maison. La partie visible de la maison. Lorsque tu jeûnes, c'est ce que toi-même tu vois. Et c'est ce que les autres peuvent voir de toi. Pas que tu t'exposes, mais c'est ce que l'extérieur découvre de toi. On voit quelqu'un qui parle de Dieu, on voit quelqu'un qui évangélise, on voit quelqu'un qui prie. Amen. Donc quand Dieu dit, la maison qui est bâtie sur le roc, il parle de tout ce qu'on... la maison qui est bâtie sur le roc ou sur le sable, le Seigneur parle de tout ce qu'on peut voir. Ta vie de prière, ta vie de jeûne, tes moments d'évangélisation, en fait, tout ce que spirituellement on voit. Le fait de venir à l'église tous les dimanches, tout ça, ça fait partie de la partie visible de la maison. Alléluia. Et la révélation de Dieu dit ceci. Si tu vois que la partie visible de ta maison s'effondre, c'est que le fondement n'était pas sur le roc. Amen. Alors tu me diras comment. Quand j'entends prier, prie. Sur cette parole, je me mets à prier. Quand Pasteur Sanogo priait pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures, c'était beau à voir. Quand on me demandait, quand on demandait dans l'église, les gens m'appelaient à l'église. Bon, je ne faisais pas ça pour me faire voir. Mais quand même, j'avais un témoignage. On dit à Sanogo, vraiment, c'est un homme de prière. Un homme de prière. Un homme de prière. Mais Dieu savait que ma prière là, elle n'était pas solide. On dit, mais lui, il aime la présence de Dieu. Il est toujours à l'église. Il est toujours à l'église. Mais Dieu sait si le fondement est bon. Toi-même, tu peux penser que ton fondement est solide. Tu découvriras que le fondement n'est pas solide le jour où ta vie de prière, ta vie de jeûne, le fait que tu viennes au culte tous les dimanches, s'effondre. Ça veut dire à un moment donné, venir au culte devient pénible. Ça, c'est ce qu'on voit. Si venir au culte pourrait devenir pénible, tu n'as même pas envie de venir à l'église. Ça veut dire, la première façon à laquelle, la première manière à laquelle tu venais à l'église avant, ce n'était pas fondé sur du solide. C'est bien de venir au culte. C'est bien de prier. Dieu n'est pas contre la maison. Il n'a pas dit que la maison même a un problème. Il dit que la maison doit avoir une bonne fondation. Le fait de venir à l'église est une bonne chose, mais le fondement doit être juste. Si le fondement n'est pas le bon, à un moment donné, tu n'auras plus la force de continuer. Amen. Ça peut être quoi? Peut-être que le pasteur t'a vexé. En tout cas, ça peut être les torrents ou le vent qui souffle sur la maison. Ça peut être une déception quelconque qui survient dans ta vie. Ça, tout ça, c'est le vent. Ce sont les torrents, ce sont les aléas qui viennent s'abattre sur ta maison et la font effondrer. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, prier efficacement commence par les bons fondements. Dis avec moi les bons fondements. Les bons fondements. Amen. Jacques chapitre 5, verset 16 dit ceci. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Ça veut dire qu'il y a des prières qui ne sont pas efficaces. Dans la durée, dans le temps, dans l'exaucement. Amen. Alors, quelle est la prière qui est efficace? Le premier élément de ces sept leçons, le premier point de ces sept leçons, c'est la prière par l'esprit. Je vais vous parler de la prière par l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et après la prière par l'esprit, on va toucher aussi quelquefois la prière de l'âme, et puis les prières même physiques, visibles, les prières qu'on voit. Amen. Aujourd'hui, on va parler de la prière par l'esprit, parce que c'est là que commence la bonne base de la prière. Amen. Il y a encore d'autres éléments qui sont très importants, qui rendent les prières efficaces. Dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 23, il est dit ceci. Vous savez, quand je parle de prière, j'englobe dans le vocable prière, dans le terme prière, j'englobe l'adoration, en fait, tout ce qui est relation avec Dieu. Moment d'adoration, chant, tout ça, j'englobe là-dedans, dans le thème de la prière. Jean 4, verset 23 dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Le Seigneur dit que Dieu recherche des adorateurs, si on peut parler de la prière, des prieurs, des gens qui prient en esprit et en vérité. Amen. Ça, c'est un des premiers éléments de la prière. La prière en esprit. Dis avec moi la prière en esprit. Si Dieu parle de prier en esprit, ça veut dire qu'on peut prier par la chair. L'esprit, c'est ce dont vous avez entendu parler récemment, et puis depuis tout le temps, on en parle toujours, on parle souvent de l'esprit. L'esprit, il est en vous. L'esprit, c'est votre vraie personne. L'esprit, c'est lui là, c'est ton esprit que Dieu a régénéré par la nouvelle naissance. La Bible dit, c'est lui qui doit d'abord prier. Le fondement commence par lui. Toutes les prières qu'on voit à l'extérieur, l'esprit, on ne le voit pas à l'extérieur. Ça ne fait partie que de la partie visible. Quand tu te mets à genoux, ça là, c'est ce qui est visible. Quand tu commences à parler, tu bouges beaucoup, ribobo, ribobo. Tout ça là, c'est le visible. L'esprit est une chose qu'on ne voit pas. Dans ce verset, dans ce passage, Jésus était en train de parler avec la femme samaritaine. Nous connaissons cette histoire. Et la femme disait ceci. Vous vous dites qu'on doit adorer à Jérusalem. Nous, on dit que c'est en Samarie, c'est sur cette montagne qu'on doit adorer. Donc, elle parlait de choses visibles. Jésus est en train de lui répondre. Il dit, madame, L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ce type d'adorateur-là, c'est ce type de prière que le Père recherche. Parce que tout ce qui était de l'ancienne alliance, avant Jésus-Christ, là, toutes les prières avant, n'étaient pas solides. Alléluia. C'était pas solide. Elle n'avait pas un bon fondement. Le bon fondement, la bonne forme de prière que le Père recherche, c'est la prière en esprit. Dis avec moi, prier en esprit. Prier en esprit. Pour mieux comprendre ce que c'est que la prière en esprit, permettez-moi d'abord de dire quelques mots sur la prière un peu de la chair ou de l'âme. Amen. Bien vrai que cette prière-là, c'est-à-dire la prière de l'âme, est nécessaire. Ce que tu vas dire aussi, ça c'est ce que j'appelle la prière visuelle, est aussi importante. Mais le problème c'est que beaucoup de prières n'ont pas le bon fondement, n'est-ce pas? N'ont pas la bonne base, parce que ce ne sont pas des prières en esprit. Alléluia! La prière de beaucoup de personnes n'est pas efficace parce qu'elle ne commence pas par la prière que Dieu recherche. Ce n'est pas cette prière-là que Dieu recherche. Tu pries, mais ta façon de prier, ce n'est pas ce que Dieu attend. Alléluia. Donc, ta vie de prière n'est pas solide. Ta prière n'est pas efficace dans le sens d'exaucement parce que ta prière n'est pas basée sur l'esprit. Tu n'arrives pas à avoir une vie de prière solide et persistante dans le temps parce que tu ne pries pas en esprit et ta prière n'est pas exaucée. Parce que tu ne pries pas aussi en esprit. Alléluia. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jacques. Le Seigneur dit ceci. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Dis avec moi. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Comme j'ai dit, toutes les prières ne sont pas exaucées. Jacques dit que le peuple de Dieu fait des prières. Beaucoup de chrétiens font des prières qui ne sont pas exaucées parce qu'ils demandent mal. On peut mal prier. On peut mal prier. Dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 1, la Bible dit, « Jésus pria en un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Les disciples qui sont venus parler à Jésus étaient des juifs. Ces personnes-là sont éduquées dans la prière. Depuis qu'ils sont enfants, on leur apprend à prier. Un peu aujourd'hui, comme ceux qui naissent dans l'islam. Comme ceux qui sont nés dans une religion avec les parents. On leur apprend à prier. Ils prient depuis leur enfance. Mais ils ont observé Jésus. Ils ont regardé Jésus prier. Et ils ont vu que Jésus-Christ ne priait pas comme les autres. Et ils se sont approchés de lui pour lui demander, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Dis avec moi, « Seigneur, apprends-moi à prier. » Nous prions, nous ne sommes pas exaucés, selon ce que Jacques dit, parce que nous prions mal. On peut mal prier. Amen. Et la première chose qui montre que les prières sont mauvaises, les prières ne sont pas bonnes, il dit, « Vous priez dans le but de satisfaire vos passions. » Amen. Alléluia. Vous priez dans le but de satisfaire vos passions. Toutes les prières dans le but de satisfaire une passion ne sont pas exaucées. Et ça va loin, cette affaire de ne pas être exaucée à cause des prières de la passion. De passion. Parce que la passion va loin. Quand on parle de passion, on parle de tout ce qui excite ta chair. Quand on parle de passion, Dieu te parle de passion, il parle des prières qui sont animées par l'excitation de tes émotions et de ton âme. Ce ne sont pas des prières qui sont exaucées. Tu pries mal. Alléluia. Il y a des prières qui sont animées par l'orgueil ou par la convoitise. Tout ça sont des formes de prières de passion. Comme un tel a eu tel. Ah, moi je veux prier par exemple, si je veux résumer sur l'exemple de moi, pasteur, de nos pasteurs. Comme je vois l'église de Pasteur Sanogo, je vois l'église de Tidi Diek, je vois telle chose. Alors, je commence à prier sur cette base-là. Seigneur, donne-moi une église qui grandit. Donne-moi des âmes. Quand tu vas regarder cette prière, elle paraît juste. Mais là, c'est ce qu'on voit. L'église est là, tout le monde s'assemble avec le pasteur. Frère, prions Dieu. On dit pourquoi on va prier. Prions pour que des vies soient sauvées. Et vous commencez au ribobo. Seigneur, bénis la campagne d'évangélisation. Seigneur, bénis la croisade. Beaucoup de ces genres de prières ne sont pas exaucées. Parce que non seulement, quelle personne ne peut pas pour que son église grandisse? Et pourquoi les églises ne grandissent-elles pas? Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu de voir une église croître? Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Mais qu'est-ce qui anime la prière? L'orgueil. Satisfaire une passion. La prière peut paraître spirituelle, mais le fondement n'est pas la prière par l'esprit. C'est une prière passionnée. C'est une prière par tes propres passions. Le désir, quelque part, quand tu vois Didi Jakes, tu vois les Benny Hinn, vraiment, toi aussi, ça te fait plaisir d'imaginer dans ta tête devant une si grande foule. Devant une si grande foule. Les gens sont là. Quand tu pries pour que, prions pour que la croisade soit bénie. Ce n'est même pas trop le salut des âmes même qui t'importe. Mais le fait d'être là, de prier et de sentir un paralytique se lever qui marche à ta croisade. Ouais, l'homme de Dieu. Et puis toujours humble. Le Seigneur est bon. On dit, parce que Dieu a glorifié son nom. Hein? C'est pour sa gloire. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Mais la prière n'est pas juste. Peut-être que de temps en temps, il ne prend pas des miracles par la miséricorde de Dieu. Mais la prière est charnelle. Ce qu'on voit, la partie visible, ressemble à la prière juste. C'est pourquoi la Bible dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Aujourd'hui, je parle de champion de la prière. Mais il y a deux éléments dans Jacques chapitre 5, verset 16. La ferveur, on en parlera, et mais la justice. Amen. Jésus dit, l'adorateur que le Père recherche, c'est quelqu'un qui adore en esprit, en vérité. Il y a la vérité. Il faut l'esprit, mais il faut la vérité. Tu peux adorer dans le mensonge. Mais cette partie-là, c'est le fondement. C'est le fondement. C'est ce que personne ne voit. C'est ce que personne ne sent. Tu pries depuis des années pour ton mariage. Peut-être que tu n'es pas exaucé parce que tu pries mal. Jacques est en train de parler à des chrétiens. Donc, il n'avait pas des prières du genre, prions pour que quelqu'un meure. Là, nous tous, on sait que c'est mauvais. Donc, il devait prier pour des choses de la vie. Et quelquefois, des choses même qui sont légitimes. Le mariage, avoir des enfants, prier pour que Dieu pourvoie à tes besoins. Tu peux prier pour que Dieu te donne à manger, mais l'esprit qui est derrière la prière est un esprit de passion. Ça dit toi-même, tu pries, Seigneur, donne-moi à manger à midi. Seigneur, j'ai faim. Dieu ne va pas t'exaucer. Parce que tu pries mal. Tu dis, mais en quoi j'ai prié mal? Pour manger à midi aussi, c'est mal aussi? Non, ça c'est la partie visible. Ce qu'on voit, c'est manger à midi. Tu pries pour ton repas de midi. Mais il y a une chose qu'on ne voit pas. La demande que tu fais pour avoir ton repas à midi, cette demande-là n'est pas conduite par l'esprit. Alléluia. Elle est conduite par des passions intérieures. Beaucoup de gens demandent des choses. On demande beaucoup de choses à Dieu, mais on n'est pas exaucé. Jacques dit, parce qu'on demande mal. On dit non, souvent c'est parce qu'on demande. Mais souvent on prie, on a la foi. Moi, dernièrement, hein, ma femme, on a prié pour un sujet. Bon, en fait, c'est elle plutôt qui priait pour ça. Dieu n'a pas exaucé. Dieu n'a pas exaucé. Mais elle a appliqué tous les cinq principes, les cinq étapes de la foi que j'ai enseignées. Elle a rêvé. Elle a espéré. La foi, c'est la fin majeure de ce qu'on espère. Elle a été ferme. Tout le temps, elle maintenait que voilà ce qu'elle aura. Voilà ce qu'elle aura. Elle déclarait tout ça. Quand on a vu le résultat, ça n'a pas marché. Elle s'est mise à chercher la face de Dieu. Et Dieu lui a dit, tu vois, tu sais ce que tu voulais obtenir? Quelque part à l'intérieur de toi, il y avait un petit sentiment d'orgueil. Tu as prié parce que quelque part à l'intérieur d'elle-même, il y avait dit, bon, les gens, ils demandent ceci, eux, ils n'ont pas. Moi, je vais demander ça pour que, je ne sais pas, on dit pour glorifier Dieu, mais quelque part, c'est pour nous glorifier, c'est-à-dire pour montrer que nous, voilà, on est meilleurs. Elle a vu que quelque part dans son cœur, il y avait ce sentiment-là. Ce n'était pas la prière par l'esprit. C'était une prière mue par sa passion personnelle. Dieu n'exauce pas cette forme de prière. La majorité d'entre vous n'ont pas levé la main tout à l'heure parce que les prières sont fortes. Tu n'as pas besoin de passer, tu ne pries pas bien. Sinon, quand tu demandes toi-même, tu crois que tu vas avoir. Alléluia. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu pries mal. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, apprends-moi à prier. Mes amis, si les apôtres, les disciples qui, depuis qu'ils sont nés, prient, depuis leur naissance, ils prient. Ils viennent de maintenant, apprends-nous à prier, parce qu'ils s'étaient rendus compte que leur prière ne marchait, ça ne fonctionnait pas. La Bible déclare que Dieu exauce les prières. Mais nos prières, la majorité de nos prières ne fonctionnent pas. Elles ne fonctionnent pas, Jacques nous révèle, parce qu'elles sont mues par des passions. Amen. Alléluia. Jacques chapitre 4, verset 4, il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ça, c'est le même Jacques chapitre 4. Le verset 3, on a lu, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. Au verset 4, Jacques commence à expliquer maintenant, c'est quoi la prière passionnée? C'est quoi la prière pour satisfaire les passions? Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Donc, le premier lot de prière de la passion, parce que la passion vient de deux choses. Ce qui t'excite. Il y a deux choses qui vous excitent. Il y a ce qui excite votre âme. Rappelez-vous, vous êtes corps, âme et esprit. Alléluia. Ce qui excite votre corps, c'est qu'il y a des choses qui excitent vos émotions, votre âme, et puis il y a l'esprit. Alléluia. Il y a une manière de prier dans l'âme. Il y a une manière d'utiliser la chair pour la prière. Mais la prière commence par la prière en esprit. C'est celle-là qui obtient des résultats. Amen. Et il dit ceci, la première des choses vous demandez pour satisfaire vos convoitises. Et je pense que c'est assez évident. Toutes les prières, ils sont mues par, quelque part au fond de toi, juste toi, le désir de paraître. Le désir d'obtenir des choses selon la chair ne seront pas exaucées. Amen. Alléluia. Lorsque je vais toucher sur les éléments de la prière par l'esprit, tu vas mieux percevoir. C'est quoi cela? La Bible dit ceci, que il y a adultère que vous êtes. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Regarde profondément. Tu pries en ce moment pour avoir une voiture. C'est bien. Dieu veut te donner la voiture. Dieu veut que tu te déplaces. Mais profondément. Est-ce que en toi, un petit désir de frime. C'est-à-dire, quelque part, un désir de prouver quelque chose, quoi. À tes parents, les gens t'ont tellement maltraité dans la vie. Montre-toi que toi aussi, tu as réussi. Toi aussi, tu as réussi. Voilà ta voiture maintenant. Les gens ne t'ont pas considéré trop au quartier. Ils ont dit que vraiment, tu es devenu une personne, une personnalité. Et te voilà maintenant dans une belle voiture. Est-ce que, quelque part en toi, il n'y a pas cette passion? Juste toi, toi-même. Parce que le fondement, personne ne le voit. Tu m'écris le sujet, pasteur, l'année prochaine, il faut que Dieu me donne une voiture. Et quand tu vas donner les raisons, quelles sont les raisons? Non, c'est vraiment, j'habite loin, ça me permet de me déplacer. Tout ça, c'est la partie visible. Mais dans le fond. Prier par l'esprit, c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? Tu demandes ça là, pourquoi? Est-ce que c'est l'utilité du déplacement? C'est pourquoi dimanche dernier, quand j'enseignais, j'ai dit ceci, qu'il y a beaucoup de choses que nous avons, et Ecclésiaste dit cela, que c'est ça sera de la vanité, il dit, beaucoup de choses que nous le faisons par esprit de rivalité. Parce que telle personne là, moi aussi il faut que je l'aie. Parce que mon frère a eu ceci, moi aussi il faut que j'aie cela. Quelqu'un qui est en train de prier pour se marier, comment vous pouvez savoir que tu pries par convoitise? Quel est le sentiment que tu as, ma soeur, lorsque d'autres personnes se marient? Ça te fait mal? Donc, en fait, tu sais pourquoi tu n'es pas exaucé par rapport à ton mariage? Parce que, sincèrement, tu as l'impression que le fait que tes copines te voient pas mariée est pour toi une humiliation. Donc, la raison pour laquelle tu veux te marier, c'est vrai que quelque part, il y a un besoin légitime, mais il y a un autre besoin qui est légitime, qui est une passion. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Pourquoi tu demandes? Tu as l'impression que ça, c'est l'esprit du monde. Dans l'esprit du monde, une femme n'est pas une femme si elle n'a pas une alliance au doigt. Dans l'esprit de Dieu, on se marie pour une vision qu'on doit accomplir. Dans l'esprit du monde, ça fait une notoriété d'être appelé madame. Bon, maintenant, tu pries pour madame ou tu pries dans l'esprit dans lequel Dieu a envoyé le mariage. Si les deux sujets peuvent se ressembler, Seigneur, donne-moi un mari. Les deux sujets peuvent se ressembler. Mais, sinon pas. C'est rien qui ne peut être exaucé parce que, c'est vraiment, c'est l'orgueil de la vie. Hein? Je ne suis pas marié depuis. Jusqu'à maintenant même, à mon âge, je m'appelle mademoiselle. Je m'appelle mademoiselle, mademoiselle. Moi, à mon âge, mademoiselle. Comment mademoiselle, mademoiselle? Et quand on te dit comme ça, oui, mademoiselle, c'est comme si on t'a planté un poignard. Bah. Donc, tu veux changer cette affaire de mademoiselle. Passion de la chair, passion du monde. Alléluia. Tu veux te marier, tu pries pour le mariage, juste tout simplement parce que tu veux satisfaire un besoin charnel. Passion. Passion. Oh, Dieu a amené le mariage dans le but de réaliser une œuvre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander le mariage. Ça ne veut pas dire que le mariage ne va pas venir satisfaire tes besoins charnels. Il va le faire. Mais la prière que le Père écoute, ce n'est pas d'abord la prière de la chair. C'est quand l'Esprit prie. Il dit, les adorateurs que le Père recherche, c'est ceux qu'il adore en esprit. Et en esprit, c'est quoi? Qui adore selon l'Esprit de Dieu. Et quelle est la mentalité de l'Esprit par rapport au mariage? Si tu n'arrives pas à distinguer la volonté de l'Esprit par rapport au mariage, et que tu pries pour le mariage en dehors de la volonté de l'Esprit en ce qui concerne le mariage, ta prière sera pas exaucée parce que ce qui motive ta prière, c'est l'Esprit du monde. C'est pas l'Esprit de Dieu. Tu te maries, parce que quand tu arrives ici, tu vois ta copine en robe blanche, ça te fait mal. Ah, quel jour, moi aussi. Moi aussi. Et chaque fois qu'une personne de ta génération se marie, ça blesse ton âme. Et tu, là, tu viens devant Dieu en pleurant. Père, je t'en supplie, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Alors, qu'est-ce qui te motive? Ce qui t'encourage à prier, ça veut dire, tu oublies à un moment donné, si tu as de mariage, jusqu'au prochain mariage. À un moment donné, tu arrêtes même de prier pour le mariage. Parce que quand tu pries, ça te fait souffrir. Non. Moi, j'ai arrêté. D'ailleurs, même, je ne m'occupe même plus. Le jour où Dieu veut qu'il me donne. Le jour où il veut qu'il me donne. Bon. Mais même ce que tu es en train de dire est charnel. Parce que Dieu veut que tu pries pour ton mariage. Mais avec un esprit différent. Ce n'est pas d'arrêter de prier. Dis le jour où il veut, il va me donner. Il va pas te donner. Si tu ne changes pas ton esprit, vous demandez, vous ne pensez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Et c'est quoi vos passions? Il dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'esprit du monde est inimitié contre Dieu? L'esprit qui est dans le monde. Les mariages selon le monde. Et c'est pourquoi dans l'église de Dieu, on a beaucoup de divorces. Parce que les personnes se marient avec l'esprit du monde. Quelle personne dans l'église ici se marie avec le désir de divorcer après de ne pas s'entendre avec son conjoint? Mais les mariages ne sont pas solides parce qu'ils ne sont pas basés sur le bon fondement. C'est pourquoi lorsque les personnes se marient, ils bâtissent des maisons qu'on voit. Elle s'est mariée, il s'est marié, mais il n'y a aucun fondement. Donc même si elle venait à se marier, est-ce que Dieu l'avait vraiment exaucée? Ce n'est pas sa chair qui est partie s'exaucer. À un moment donné, Dieu tarde à exaucer ta chair. Tout ça, c'est trop long. Tu vas maintenant sur Internet. Ta photo partout sur Internet. Regardez-moi. Jeune sœur en Christ qui aime Jésus. En même temps, on dit, qu'est-ce que tu aimes? J'aime les enfants. J'aime lire la Bible. J'aime la prière. Ne pouvons-nous pas correspondre? Non. Là, maintenant, ta chair va prendre. Quel est le fondement? Est-ce qu'on est avec moi? Alléluia. Donc, si je prie pour me marier avec l'esprit du monde, Dieu ne m'exauce pas. Si je prie pour satisfaire juste le fait de venir au mariage pour être en blanc ici devant le maire, parce que j'ai vu ma copine le faire, Dieu n'exauce pas. Comment je peux savoir que je prie ainsi? C'est que ma prière n'est pas persistante dans le temps. C'est-à-dire ma prière pour le mariage. Quand je prie, comment je sais que ma prière est charnelle, elle est passionnée? Vraiment, quand je m'approche du sujet avec Dieu, mes pleurs ne sont pas spirituels. C'est un peu comme si Dieu ne donne pas, je vais presque rétrograder. C'est-à-dire que ta prière est passionnée. C'est la chair, ça. C'est pas l'esprit. Deux, ce sont des gens de prière qui amènent des ultimatums. Attention. Cette année, c'est cette année. Tu ne fais pas attention. Tout ça là, c'est la chair. Dis attention. L'année va finir. Depuis 2000, tu es en train de dire attention à Dieu. Tu dis, je t'ai dit, hein, si tu ne fais pas. Dieu est patient. Ça fait 2001. Si tu ne fais pas. Mais tu ne peux pas retrograder parce que tu aimes Jésus. Donc, tu peux être païen aussi. Tu peux pas retrograder. Donc même quand tu vas aller dans le monde, ça, le monde ne te plaît pas parce que tu sais que ce n'est pas ta place. Parce que tu appartiens au Seigneur et tu reviens. Mais tu n'as pas envie d'enlever cette passion charnelle-là qui est en toi, qui te fait prier. Jacques dit, c'est ça le problème. Ton sujet est juste parce que c'est Dieu qui a instauré le mariage. Mais l'esprit avec lequel tu pries, C'est pas cela qui est pas bon. Ta prière n'est pas en prière par l'esprit. C'est l'esprit du monde qui te conduit dans ta prière. Donc, lorsqu'on regarde la légitimité du sujet, tous les pasteurs peuvent prier avec toi. Tout le monde peut prier avec toi. Parce qu'on regarde la partie visible de la maison. Mais Dieu qui voit le fondement, c'est que ta prière n'est pas solide. Et à un moment donné, quand ça t'attaque, tu ne pries plus. Jusqu'à ce que tu revois ta copine avec qui tu priais se marier. Quand elle se marie, là tu fais boycott de Dieu. Le dimanche qui suit, tu ne viens pas à l'église d'abord. Parce que tu es fatigué de cette affaire-là. Non. Les pasteurs sont là, ils parlent, ils prophétisent. J'ai dit, ma fille, l'année prochaine, il n'y a rien à faire. Dieu déclare. Juge-toi toi-même. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et ce que je dis pour le mariage est vrai aussi dans beaucoup d'autres choses. Que ce soit pour le travail. Dieu veut qu'on travaille. Dieu veut qu'on ait du boulot. Mais l'esprit du monde a une manière de chercher du travail. L'esprit de Dieu a une façon de faire. Dieu exauce les prières, mes amis. Mais il n'exauce pas les prières qui sont mues par les passions. Ceux à qui on parlait ici, ce n'étaient pas des inconvertis. C'était des chrétiens dans une église qui priaient. Jacques dit, vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Et comment vous priez mal? Vous priez pour chercher à satisfaire vos passions. Et il dit, qu'est-ce que c'est les passions? Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Vous voyez, quand on veut mélanger l'esprit que Dieu nous a donné à notre conversion avec d'autres mentalités, ça n'est pas du tout agréable au Seigneur. Il dit, il accorde, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Donc, vous-même aujourd'hui, analysez profondément les mobiles de vos prières. Amen. Pourquoi je prie? Pourquoi je demande la voiture? Pourquoi je demande cet argent? Pourquoi je cherche à voir? Juge-toi toi-même. La fondation est une chose quelquefois qui n'est pas facile à voir. Et tu peux être dans ta propre maison et ne sais même pas savoir jusqu'à où va le fondement de ta maison. C'est pas ça? Mais, si tu veux bâtir une vie de prière efficace, si tu te rends compte aujourd'hui que ta vie de prière n'est pas une vie de champion, que tu n'es pas souvent exaucé, prends la pioche spirituelle. Prends l'appel spirituel. Et puis commence à creuser. Creuser. Pourquoi la vie de prière dont je vous parlais, ma vie de prière qui paraissait si excellente, est-elle tombée? Je me suis rendu compte que quelque part en moi, il y avait un esprit de concurrence dans la prière. Je passais beaucoup de temps à prier. Tout le monde qui me voyait prier, je priais pour des sujets pieux, je priais pour le salut de la terre, je priais pour que les gens soient sauvés. Voilà les sujets que j'avais. Mes sujets de prière paraissaient très spirituels. Mais ma vie de prière est tombée. Avant, j'étais convaincu que mes prières étaient spirituelles. Parce que je ne demandais pas l'argent, je ne demandais pas la gloire, je ne demandais pas ces choses. Et pour moi, mes prières étaient justes. Je priais pour que les personnes soient sauvées, je priais. Et je passais beaucoup de temps dans la prière en priant pour cette forme de sujet. Je priais pour le réveil de l'église. Je suppliais Dieu pour le réveil de l'église. Mais mes horaires de prière et ma manière de prier étaient conduites par un esprit qui n'était pas exactement l'esprit de Dieu. Donc, ce n'était pas basé sur le roc. Alléluia. Quand je vous ai dit au départ, j'ai essayé de prier 3 heures de temps. Je voulais prier pour battre un record. Ça, c'est l'orgueil. C'est pourquoi ma vie de prière de 10 heures, là, elle a tenu pendant 3-4 ans. Mais elle s'est effondrée après, parce qu'elle n'était pas solide. Et qu'est-ce qui me motivait dans ma prière? J'aimais le Seigneur, je voulais être un des plus grands prieurs. Donc chaque fois que je lisais un livre où on me décrivait un homme de Dieu qui priait beaucoup, je voulais faire mieux. Vous comprenez? Ce n'était donc pas l'amour de Dieu qui m'amenait à rester dans sa présence, mais c'était l'esprit de montrer à Dieu que je l'aime plus qu'un tel. C'est ça, si vous comprenez. Mon but, pourquoi pendant longtemps j'ai cru que ma prière était spirituelle? Parce qu'en fait, je ne priais pas pour prouver l'orgueil qui m'animait. Ce n'était pas un orgueil vis-à-vis des hommes. Je n'avais pas quelque chose à leur prouver. Mais je voulais prouver à Dieu que j'étais meilleur que les autres. J'avais un esprit de rivalité en moi-même par rapport à d'autres hommes de Dieu. En fait, dans mon esprit, j'avais envie d'être le meilleur homme de Dieu. Mais meilleur homme de Dieu, ça veut dire quoi? C'est ce dont je vous parlais ce dimanche. C'est faire mieux que ce que mes pères ont fait ou mes prédécesseurs ont fait. Vous comprenez? Ce n'est pas d'atteindre ma destinée à moi. C'est pourquoi je vous ai dit, la mentalité du royaume, la mentalité des fils, n'est pas une espèce de concurrence. profondément en soi-même. C'est une recherche de ce que Dieu a fait. Jésus a dit, moi, je ne fais rien sans avoir vu mon Père le faire. Donc, ce qui motivait Jésus dans son mouvement, ce n'était pas ce que d'autres personnes avaient fait. Jésus ne cherchait pas à être mieux que Jean-Baptiste ou quoi. Jean-Baptiste était peut-être pour lui un modèle, mais il avait sa particularité. Et il regardait Dieu. Jean-Baptiste s'habillait en haillon. Jésus, lui, il s'habillait de manière relaxe. Jean-Baptiste, il ne mangeait pratiquement pas, il mangeait des sauterelles. Jésus, lui, mangeait la nourriture. Vous comprenez? Et les hommes sont venus s'arrêter devant Jésus. Ils ont dit, mais toi, pourquoi est-ce que tu ne fais pas comme Jean-Baptiste? Lui, il ne mangeait pas. Toi, tu bois, tu t'assois avec les gens, tu n'es pas comme Jean-Baptiste. Si Jésus-Christ changeait pour être comme Jean-Baptiste, pour être plus aux yeux des hommes, tout ce changement n'aurait pas été, ça n'a pas été un bon fondement. Amen. Si Jésus-Christ, parce que les gens lui avaient dit ceci, commençait à s'habiller comme Jean-Baptiste, c'était charnel. Mais les hommes n'auraient pas vu le côté charnel. On allait voir plutôt un homme pieux, un homme spirituel. Et moi, parce que ça ne go, avant, c'est comme ça que je dirigeais ma vie chrétienne. Je lisais la vie d'un homme de Dieu. On dit le Sadou. Il jeûne 40 jours. Et quand je vois ça, ce n'était pas comme un exemple pour me dire, Seigneur, apprends-moi aussi à te chercher comme cet homme. J'avais lu un livre qui m'avait beaucoup édifié en son temps, ça s'appelait Les héros de la foi. Donc je lisais ça avec passion. Et quand je vois tel homme fait ceci, j'ai dit non, je dois faire plus. Je recherchais l'onction de Dieu. Parce que j'aimais le Seigneur, j'aime Jésus. Mais pour moi, c'est un peu comme si, pour m'approcher de Jésus, il faut que je sois mieux que les autres. N'est-ce pas, non? Hein? Voilà. Donc si quelqu'un fait quelque chose pour Dieu, je dois faire mieux. Pour lui plaire davantage. Je voulais acheter son amour par ma vie de prière, par ma vie de consécration. Vous comprenez? C'était charnel. Mais pour découvrir cela, j'ai pris le temps de creuser. Vos prières, si elles ne sont pas exaucées, c'est que sûrement le fondement n'est pas juste. Persévérez dans la recherche de la présence de Dieu pour découvrir vos mobiles profonds. Peut-être c'est pas envers tous les sujets, mais d'autres sujets. Qu'est-ce qui n'est pas exaucé? Quel est le sujet pour lequel tu pries et pour lequel Dieu ne t'écoute pas? Tu as l'impression que le ciel est fermé. Et ça fait 20 ans que tu persévères sur ce sujet. Il va exaucer. C'est bien de persévérer. Parce que moi, quand tu persévères sur le sujet, tu sais, si tu es humble, Dieu va finir par te révéler la cause. Dieu va finir par te révéler la cause. Il va dire, tu n'es pas exaucé parce que tu pries mal. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Amen. Donc prenez garde aux prières de l'orgueil. Certaines formes aussi des prières qui viennent des passions, ce sont les prières un peu faire comme d'autres personnes l'ont fait. Jésus dit, quand vous approchez de moi, ne prononcez pas de vaines paroles. Ça veut dire des gens qui parlent comme d'autres personnes ont parlé. Ça là même, Dieu ne se pas les trucs comme ça. Comme ils ont vu un frère se lever à l'église, parler avec un vocabulaire structuré des prières. Oh, mon Père, toi, ils font des poésies, tout ça. Dont le nom, tu es le lion de Juda, mon étoile qui se lève le matin, l'éternel Dieu. Des trucs comme ça, Dieu ne sauce pas ça. Celui qui me soutient, toutes ces belles paroles mielleuses, là, je ne sais pas ce que Dieu regarde. Dieu dit, les vrais adorateurs, il faut l'adorer en esprit, en vérité. Il y a un gars, il ne sait pas parler le français, mais quand il prie, Dieu l'exauce. Il dit, quand il prie, là, il mélange le, la, les. Mais en esprit, il prie. C'est ce que Dieu cherche, frère. C'est ce que Dieu cherche. Alléluia. Souvent, on ne prie pas en esprit parce que, c'est quoi les prières des passions? Vous savez, dans l'âme, il y a trois composantes. Il y a une partie de votre âme qui prend les habitudes des personnes. Et souvent, quand nous écoutons des gens prier, on fait nos prières, il y a beaucoup de mots vains. C'est-à-dire des répétitions. C'est-à-dire, nous, on prononce les mots, on ne sait même pas ce qu'on dit. Sincèrement, là, quand on dit « sois magnifié », quand tu dis « Seigneur, sois magnifié », tu sais, ça veut dire quoi, magnifié? Magnifié, là, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Sois exalté. Ça veut dire quoi? Exalté. Ah, non, c'est une bonne chose qu'on dit à Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Donc, il y a des prières qui ne sont pas exaucées. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ça fait partie des prières de la passion. C'est-à-dire, parce que le monde prie comme ça. Toi aussi, tu pries comme ça. Ce n'est pas une prière en esprit. Ça ne vient pas de ton intérêt. Ça vient par imitation des personnes. Et même si tu veux apprendre ce que ces personnes sont en train de faire, demande-leur, ça signifie quoi? Pourquoi tu as dit tel mot à Dieu? Mais toi, tu dis, tout le monde se lève à l'église. On prie ainsi. Oh! Et il y a des prières, quand vous les écoutez, tu dis, non. Mais il parle. Il prie, le frère, il prie. Il y a des prières qui sont des répétitions. Quand tu vois les gens prier, c'est du bout des lèvres. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Eh bien, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu. Mais ça dit que, mon Dieu, mon roi, que tu dis là? Mon Dieu, mon roi, je te dis que mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Attends, arrête-toi, arrête-toi. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Voilà. Hein? C'est pourquoi Dieu dit, quand vous priez, il dit, ne priez pas comme les païens qui disent des mots vains. Qui pense que c'est à force de parole qu'on est exaucé. C'est parce que tu dis, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, Dieu n'exauce pas mon Dieu. Ça a un sens la prière, tu t'arrêtes. Oh Dieu, mon Dieu, et puis mon roi. Tu penses à ce que tu dis. Quand tu dis mon roi, là, tu sais ce que tu es en train de dire. C'est pas une récitation. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon libérateur et mon Seigneur et mon sauveur. Mon Dieu, mon roi, le Dieu qui... Est-ce que tu sais ce que tu dis? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire? Là, dans la phrase, tu viens de dire « mon libérateur ». Ça a un sens. Analyse le mot « mon libérateur ». Ça veut dire, quand je dis « mon libérateur », je suis en train d'exprimer le fait qu'il m'ait libéré. Je ne dis pas, je n'enchaîne pas des mots comme ça. « Mon libérateur est mon sauveur et mon Seigneur. Toi qui m'as délivré de la boue. Oh, » Tu entends, on dit doucement, doucement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il y a un petit qui dit « je priais ». Tu as prié. Mais tu as dit quoi à Dieu? Tu parles à une personne. Lorsque tu arrêtes une personne et puis tu lui parles, est-ce que tu débites des mots sans avoir le sens? Quand même. Hein? Tu arrives comme ça. André, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Mon ami André, qui est comme toi, mon ami? Et puis tu racontes. La prière, c'est parler. Calme-toi et puis tranquillement. Bonjour André, ça va? Oui. Et puis c'est un échange. On parle. On n'envoie pas les mots en désordre. Pom. C'est ce qu'il dit. Il dit, ne priez pas comme les païens. Qui croit que c'est à force de parole, a dit Jésus, qu'on est exaucé. À force de répétition de mots vains. La vanité d'un mot, quand il parle de mots vains, c'est le fait qu'à l'intérieur du mot, il n'y a pas de poids, il n'y a pas d'esprit. Ce sont des paroles qu'on débite comme ça. Pam, pam, pam. C'est pourquoi on n'est pas exaucé, vrai. Ça, c'est prier selon l'esprit du monde. C'est prier selon l'esprit des circonstances. C'est pourquoi nos prières ne sont pas efficaces. Est-ce que quelqu'un avait moi? Alléluia. Amen. Dieu voisin, mardi prochain. En fait, moi, l'Esprit de Dieu m'a dit de parler de la prière. Prière, c'est notre moyen de communion avec Dieu. Si tu n'as pas cette communication avec Dieu, si ton contact avec le Seigneur est coupé, tu peux t'arrêter 3 heures de temps. Le matin, tu te lèves. Tu passes 2 heures inutiles en train de dire des choses qui ne servent à rien, qui n'auront aucune réponse, aucune incidence. C'est quoi? C'est pas normal. Donc le Seigneur dit, mon peuple me cherche. Il y a beaucoup de choses que tu enseignes, mais les gens me cherchent, mais ils me cherchent mal. J'ai dit, les vrais adorateurs, les adorateurs que le Père recherche, c'est ceux qu'il adore en esprit et en vérité. En vérité, en esprit. Alléluia. Alléluia. On n'a pas encore donc fini le premier point. On va l'aborder la prochaine fois, parler donc de la prière par l'esprit, mais de la prière en esprit. On touchera beaucoup de choses puissantes. Et le mardi prochain, on va prier, par la grâce de Dieu, si je finis cette partie, on la conclut en priant pour le baptême dans l'esprit de Dieu. Alléluia. On va revenir sur la puissance de la prière en langue. Parce que la prière en langue aussi fait partie de la prière en esprit. Amen. En fait, elle est l'expression, quelque part, de la prière en esprit. Amen. Voilà. Il faut utiliser les deux. L'apôtre Paul dit, je dois prier avec la langue, je dois prier avec l'intelligence. Prier avec l'intelligence, c'est là qu'on fait intervenir l'âme. Donc, le fondement de la prière, c'est d'abord l'esprit. Et puis après, là-dessus vient s'ajouter le côté, l'intelligence et puis la ferveur. Il dit, la prière fervente du juste. La ferveur n'est pas rattachée à l'esprit. C'est un peu rattaché à l'esprit, mais c'est beaucoup rattaché à l'âme. Parce qu'après, il va citer Élie qui a prié avec ferveur. C'est-à-dire, où il dit encore, mon âme soupire après l'Éternel, mon esprit le cherche. Donc on parlera de toutes ces choses-là. Quel est l'état d'esprit qui active nos prières, qui anime nos prières? Alléluia. Parce que la prière commence par la prière en esprit. C'est pourquoi il dit ceci encore. Faites en tout temps par l'esprit toute forme de prière. Il va citer les prières. Donc toute prière doit être faite par l'Esprit. Si une prière n'est pas faite par l'Esprit, elle n'est pas efficace. Si une prière n'est pas faite par l'Esprit, elle est faite selon la chair, elle est faite selon l'âme. Et si une prière est faite selon la chair ou selon l'âme, elle n'a pas de bon fondement, elle ne peut pas être exaucée. Toute prière qui a pour source mes désirs charnels, l'orgueil de la vie, mes passions intérieures ne sera pas exaucée. Mais toute prière qui est basée sur l'Esprit, qui commence par l'Esprit, sera exaucée. Elle a vraiment les premiers éléments pour être efficace. L'efficacité. Alléluia. 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 Si tu sens que ce soir tu as fait un pas de plus, tu deviens champion des prières par cette parole, tu vas acclamer très fort le Seigneur. Parce que tu viens de marquer un but. Alléluia. Un but dans l'efficacité de la prière. Pour être un champion de prière. Amen. On va se tenir debout et on va prier pour le peu que nous avons entendu ce soir. Nous allons demander, invoquer Dieu, nous allons parler au Seigneur. Et tu vas prier avec une prière sensée. Tu ne vas pas lui parler maintenant des mots en l'air. Tu vas parler à Dieu sincèrement. Quand tu lui dis merci, ça veut dire merci. Tu lui dis merci, ça a un sens. Tu penses à ce que tu dis. Tu ne pries pas précipitamment. Tu lui dis merci, tu réfléchis au merci, tu lui dis merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ceci. Et tu lui demandes de bâtir, d'établir cette parole dans ton cœur. De balayer en ton être les mauvais fondements. De te révéler dans le cours de la semaine. Et même dès ce soir, les sujets de prière que tu abordes qui n'ont pas une bonne fondation. Alléluia. Parce qu'il est possible que certains de tes sujets de prière aient un bon fondement. Ce n'est pas toute ta vie de prière. Les sujets qui seront exaucés ou qui sont exaucés ont sûrement une bonne fondation. Mais les autres sujets qui ne sont pas exaucés ont une fondation qui n'est pas juste. Il y a des éléments que je n'ai pas cités dans les passions. Les prières qui sont induites par la peur. Par la peur. Peut-être que j'en parlerai un peu mardi prochain. Tout ça sont des prières passionnées. Et Dieu n'exauce pas cette forme de prière. Et on va bien décrire c'est quoi la prière par l'Esprit. Alléluia. Ensemble, élevons nos voix. Et demandons à Dieu de corriger nos prières. Je sais que tu as déjà reçu des exaucements. Chaque fois que tu as été exaucé, ta prière était certainement induite par une prière en esprit. C'est le Saint-Esprit qui te conduisait dans la prière. C'est par l'Esprit. Mais les autres sujets pour lesquels tu n'es pas exaucé, soit peut-être tu n'avais pas la foi, soit cette prière-là n'était pas une prière basée sur l'Esprit. Tu as fait des prières pour un voyage. Tu as fait des prières pour un déplacement. Tu as fait des prières pour construire ta maison. Tu as fait certaines prières qui ne sont pas exaucées. Tu as élevé des prières pour des sujets concernant ton foyer, concernant ta maison, concernant tes enfants. Analyse dès maintenant et dans la suite les sujets de prière que tu as exposés à Dieu. Prends ta pioche spirituelle, prends ta pelle spirituelle et regarde les fondations de ces sujets de prière. Regarde le fondement de ce sujet de prière. Sur quoi est-ce que ton sujet de prière est fondé, est basé? Merci Seigneur pour ta grâce divine. Béni sois-tu Dieu vivant. Au nom de Jésus. Seigneur, comme tes disciples, nous venons à tes pieds et nous te demandons de nous apprendre à prier. Ô Dieu, certaines de nos prières sont exaucées, d'autres ne le sont pas. Et nous ne savons pas souvent pourquoi. Mais tu as commencé à nous enseigner aujourd'hui pour nous révéler que il nous faut prier par l'Esprit. Et que les prières entraînées par les passions charnelles et émotionnelles ne sont pas exaucées. Seigneur, toi-même viens sonder nos cœurs et nos reins. Viens sonder nos mobiles et nos pensées. Et viens, Seigneur, par ta grâce divine, corriger toutes choses et poser en nous le bon fondement. Tu dis que les vrais adorateurs vont t'adorer en esprit et en vérité. Apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous à te prier selon ton esprit. Tu veux que nous travaillions. Tu veux que nous nous marions. Tu veux que nous puissions progresser en toutes choses. C'est ta volonté. Et nous aussi, nous aspirons à ces choses. Mais souvent, notre fondement n'est pas le bon. Apprends-nous à avoir le bon fondement. Apprends-nous à bâtir sur les bonnes fondations. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Le peuple de Dieu est béni. Le Saint-Esprit vous communique les bonnes manières de prier. L'Esprit de Dieu t'enseigne la bonne manière de prier. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es un champion en prière. Dans le nom de Jésus, tu élèves vers Dieu dès ce soir des prières efficaces par la puissance de l'Esprit. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu vous enseignera toutes choses. Il est celui-là même qui prend le peu de paroles qui ont été données ce soir et qui t'enseigne, qui te corrige, il te rectifie et il t'améliore. En ce soir, le Seigneur te fait passer à une autre dimension dans ta vie de prière. Tu as fait un pas de plus. Tu es devenu un champion ce soir dans ta vie de prière parce que tu viens d'apprendre encore quelque chose de nouveau. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Que rien ne vienne t'arrêter dans ta dynamique de prière. Au nom de Jésus. Merci Père. Amen. On peut acclamer notre Seigneur et Dieu. Amen.
Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.